moi, la famille, c'est la vie.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Bienvenue à un nouvel épisode de Pour moi, la famille, un balado qui vient à la rencontre de familles et futures familles de la diversité sexuelle et de genre. Dans ce premier épisode, d'une série de deux, consacrée à la création de nos familles, nous allons rencontrer quatre familles qui se livreront avec sincérité sur l'histoire de l'arrivée de leurs enfants dans leur vie. Soyez prêts à partager un moment d'intimité et de vulnérabilité avec ces familles inspirantes. Aujourd'hui, c'est moi, June.
Et moi, Mona.
Qui avons le plaisir de vous présenter deux familles incroyables. Content de te voir aujourd'hui, Mona?
Oui, moi aussi, June.
Donc, j'imagine qu'à travers tes 25 ans à la Coalition, il y a dû y avoir beaucoup de personnes qui te demandent comment exactement que les couples LGBT ou les personnes LGBT peuvent faire des enfants?
Ah oui, c'était toujours le cas depuis le début de la Coalition dans les années 90. C'est presque jamais un accident de fonder une famille dans notre communauté. Il y a beaucoup de questions et souvent, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas de nos parents. Il n'y a pas une passation de savoir. En plus, c'est toujours un grand mystère pour les gens à l'extérieur de la communauté aussi. Je me souviens d'avoir fait du lobbying auprès d'une députée au niveau fédéral pour une loi sur la procréation assistée. Et puis, il m'a posé la question, est-ce que les hommes gays doivent congeler des ovules dans leur congélateur?
Leur congélateur juste à côté des pogos, là.
Oui. Exactement. C'est compliqué pour tout le monde, mais en fait, les quatre familles qu'on a entrevuées vont nous aider à éclairer les choses.
Pour ce duo d'épisodes sur comment nous créons nos familles, nous avons décidé de présenter quatre méthodes. La GPA.
Grossesse pour autrui.
La PMA.
Procréation médicalement assistée.
L'insémination maison. Et l'adoption en banque mixte.
Parfait.
Pourquoi on a choisi ces quatre méthodes, Mona?
Mais en fait, c'est les méthodes les plus compliquées. Ça prend beaucoup de planification. Il y a d'autres méthodes, c'est sûr, mais c'est des méthodes qui sont un peu plus spontanées.
Comme quoi exactement?
Mais par exemple, par relation sexuelle, une personne bisexuelle qui est avec une autre personne qui a des gamètes complémentaires, donc une qui a des ovules, l'autre qui a du sperme, ça peut marcher. Ou bien la coparentalité, donc quand une personne rencontre une autre personne qui a déjà un enfant, donc cette personne peut s'impliquer comme parent, donc ça c'est une autre méthode. Ou bien la garde d'un enfant qui fait partie de notre famille élargie. Donc, si les parents d'origine ne sont pas capables, pour une raison ou une autre, de prendre soin de l'enfant, donc on peut devenir parent un peu comme un parent adoptif.
Aujourd'hui, deux familles nous ont ouvert les portes de leur maison. Ariane et Elisabeth, qui ont utilisé l'insémination maison, et Christophe et Samatar, la GPA, la grossesse pour autrui. Mais avant tout, passons à la capsule vocabulaire pour voir qu'est-ce que ça veut dire tous ces beaux acronymes-là. Donc, le premier terme qu'on va définir, c'est insémination maison. Une petite définition simple pour vous. L'insémination maison, c'est quand on prend le sperme d'une personne connue avec l'aide d'une petite seringue sans aiguille et qu'on fait une insémination à la maison. Mona, est-ce que tu as quelques exemples où une future famille pourrait avoir recours à l'insémination maison pour moi?
L'exemple le plus commun, c'est une couple de lesbiennes qui fait une insémination avec le sperme d'un ami, souvent un homme gay, ou bien un homme trans qui veut un enfant seul et reçoit un don de sperme d'une personne connue. Un autre exemple, c'est une couple de personnes asexuelles qui ont des capacités reproductives mais préfèrent ne pas avoir une relation sexuelle. Donc, ils vont créer leur famille avec une insémination.
Donc, depuis la loi en 2002, on peut créer des contrats maison qui protègent les parents et les donneurs. Mona, c'était comment avant?
Mais en fait, avant la loi, les familles n'étaient pas protégées du tout parce que ce n'était pas possible d'avoir deux personnes de même genre sur un acte de naissance. Donc, le donneur pouvait toujours réclamer sa paternité ou on pouvait lui demander une pension alimentaire. C'était compliqué. Dans ma propre famille, pour nos enfants, leurs actes de naissance disaient « Mona, mère et père non déclaré ». Donc, ma conjointe était nulle part sur ses actes de naissance.
Le deuxième terme, c'est GPA, la grossesse pour autrui. Définition simple, La grossesse pour autrui, c'est quand un individu ou un couple demande à une autre personne, qu'on appelle la personne porteuse, de porter un embryon. Et ce, généralement, sans son bagage génétique. À noter qu'ici, on utilise l'appellation « personne porteuse », puisqu'une personne de n'importe quel genre peut porter un enfant. Chaque personne, par contre, se définit comme elle l'entend. À noter aussi qu'au Québec, il n'y a pas encore de cadre légal. Les futures familles doivent donc souvent faire affaire hors du Québec, ce qui explique pourquoi la majorité des termes sont en anglais. Donc, si je comprends bien, Mona, il y a deux types de GPA?
Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle le GPA classique, on dit en anglais « classic surrogacy », mais c'est quand la personne qui porte l'enfant, c'est un enfant qui a été conçu avec ses propres ovules.
Par exemple, c'est si je portais l'enfant d'un couple d'amis, puis j'utilisais mes ovules, le sperme d'une des deux personnes ou peu importe, et que je donne l'enfant quand j'accouche.
Exactement. Puis le deuxième type, c'est le gestational surrogacy, ou en français, la gestation gestationnelle. Ça fait pas vraiment de sens, donc on va le dire en anglais, gestational surrogacy. En fait, ça, c'est la façon qui est utilisée dans les agences de GPA, où il y a comme une personne qui donne l'ovule, et puis une autre personne, donc une deuxième personne qui porte l'enfant.
Pourquoi exactement?
Mais la raison derrière ça, c'est l'idée, c'est que la personne qui porte l'enfant va avoir moins de comme attachement à l'enfant si l'enfant n'est pas lié génétiquement.
Puis on peut faire affaire autant au national qu'à l'international, je pense.
Oui, mais la grande majorité des personnes dans notre communauté vont aller avec une agence au Canada, donc dans d'autres provinces, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique. C'est possible aussi à l'international, c'est sûr, mais la coalition n'encourage pas ça. La raison, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrôle ou des connaissances sur ce qui se passe dans d'autres pays, donc on ne sait pas si ça va être une pratique éthique ou non, donc on l'encourage pas.
Par rapport à ça, je vous recommande, on a sur le site internet directement, un petit guide sur la gestation pour autrui. J'ai appris beaucoup en lisant. Mais si vous voulez en savoir encore plus, prenons le temps de plonger dans l'interview de notre première famille, Samantha et Christophe. OK, c'est vraiment excitant. On s'apprête à vous présenter la première entrevue. Puis on commence avec vraiment non pas la moindre, Samantha et Christophe. Donc, c'est qui Samantha et Christophe? C'est deux hommes cisgenres gays qui sont devenus papas grâce à la grossesse pour autrui en Ontario. Leurs enfants, Sarah et Emma, sont toutes données de la même donneuse d'ovules et de la même personne porteuse, Cristaline, de qui ils sont encore proches aujourd'hui. Christophe et Samantha sont un couple aux diverses origines culturelles et ont eu leurs enfants plus tôt dans leur vie, d'où le surnom de « bébé miracle » qu'ils donnent à leurs enfants. En plus de Sarah qui a 5 ans et d'Emma qui a 1 an, les deux papas ont perdu un enfant à 38 semaines de grossesse, soit 2 jours avant la date planifiée de l'accouchement. Le deuil périnatal qu'ils ont vécu marque la composition de leur famille unique. Donc Mona, quand est-ce que tu as rencontré Samantha et Chris?
Wow! Ces deux sont assez impliqués à la coalition. Je pense que je les ai rencontrés au début de leur projet parental. Et ensuite, Chris était au conseil d'administration pendant un moment. Puis aujourd'hui, Sam anime la portion GPA de nos ateliers pour les futurs parents.
On les a rencontrés en juillet 2022 dans leur maison de l'Est de Montréal. C'était le lendemain de la fête des filles qui ont les deux leur fête rapprochée. Donc, il y avait des ballons partout, il y avait des décorations, puis un reste de buffet qu'on a pu un peu manger avant l'entrevue. Donc, sans plus attendre, allons faire connaissance avec Samantha et Christophe. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en incluant vos prénoms, vos pronoms et toute autre information que vous trouvez pertinente?
Bonjour, je m'appelle Samantha Abdilahi. Mon pronom est il, lui. Et je suis le papa de deux magnifiques petites filles, Sarah, 5 ans, et Emma, 1 an, aujourd'hui ou cette semaine. Donc voilà.
C'est ça, justement, on est arrivé, c'était la fête des deux hier.
Exactement.
Donc, on a eu la chance d'arriver dans une maison remplie de ballons,
de gâteaux
et de gâteaux.
Des restants.
Moi, je m'appelle Christophe Furtos. Mes pronoms, c'est il ou lui. Je suis le conjoint de Samantha. Et ça va faire maintenant 15 ans qu'on est ensemble.
Oui.
Puis on a, c'est ça, comme tu as dit, deux super belles filles, Emma et Sarah.
Ma première question pour vous, c'est une question que j'aime beaucoup, c'est Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Oui, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ça a toujours été une question. Pour moi, j'ai toujours bien accepté mon homosexualité, mais la question, c'était comment est-ce que j'allais combiner ça à avoir des enfants, parce que ça avait été toujours dans mes objectifs, en fait, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Puis, je voyais que le parcours semblait compliqué pour y arriver. Mais la vie a fait que je suis arrivé au Canada, j'ai eu le bonheur de rencontrer Sam, puis on avait les mêmes objectifs de vie, et on en a vite parlé ensemble qu'avoir des enfants, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Je m'étais renseigné un petit peu avant, mais avec Sam, je dirais que ça a pris une autoroute, en fait, d'avoir des enfants. Donc, c'est toujours été l'objectif, puis là, on est content, on y est arrivé.
Oui. Oui, donc moi aussi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Par contre, le bémol, c'est que je ne me projetais pas là-dedans. Je suis d'une époque, j'ai grandi à Montréal, autour des années, j'avais 20 ans, autour des années 90 et tout ça. Donc, la communauté gay, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de représentation de papa gay que je pouvais voir. Donc, même si le désir a toujours été toujours présent, je ne me projetais pas là-dedans. C'était un peu un deuil interne que j'avais fait. Et quelque part autour des années 2000, là, soudainement, il y a eu cette explosion au niveau de la juridiction et au niveau des lois. Et c'est là que j'ai recommencé tranquillement peut-être à me projeter. Mais c'était quelque chose d'assez enfui. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais toujours à la tête parce que je pensais que c'était tout simplement pas possible. Et là, quand on s'est rencontré avec Christophe, on en a parlé rapidement. Et comme Christophe vient de le dire, on s'est rendu compte que oui, c'était quelque chose qu'on voulait tous les deux et qu'on arrivait à un certain âge aussi, on le voulait. Ben, c'était maintenant ou jamais.
Quand est-ce que vous avez commencé votre projet familial? Comment ça s'est déroulé dans votre relation, dans votre couple? Comment vous êtes abouti à vouloir commencer ce projet-là?
En faisant tout simplement une recherche Google, une des premières choses qui est apparue, c'est un organisme que je ne connaissais pas. C'est marqué « Coalition des familles homoparentales ». Et je pense que j'ai tout simplement pris le téléphone, j'ai appelé, c'est Mona qui a répondu, 2014. Et quand le hasard fait bien les choses... je lui ai parlé tout simplement qu'on voulait avoir des enfants, mais qu'on ne savait pas comment. Et elle m'a dit, mais il y a un atelier qui se donne. On s'est présenté à l'atelier. Et c'est comme ça qu'on a débuté.
C'était bien. On avait des idées, je pense, avant de comment créer une famille. Mais je pense que l'atelier a vraiment structuré toutes nos idées. Puis en plus, on a rencontré d'autres couples. Aussi des couples avec des enfants, donc on a pu avoir des exemples de familles qui avaient fonctionné. Puis
donc c'est un processus lent, assez coûteux, assez dans la logistique quand même assez compliqué.
Puis il faut pas s'attendre à que ce soit une ligne droite, tranquille.
Oui. Ouais. La résilience n'est pas une option dans ce processus.
Ouais.
Peu importe. Les couples ou les futurs parents à qui on a parlé, incluant nous-mêmes, tout le monde a eu des moments de découragement et des moments difficiles.
Ça doit être une bonne test pour le couple.
C'est un grand test, voilà, pour le couple,
oui.
pour toutes sortes de choses, non seulement pour les moments difficiles.
La communication est la clé.
La communication. C'est véritablement si on peut résumer ce processus, c'est un processus où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se parler entre nous, parler énormément de ses attentes avec la femme porteuse. Et quand il y a des moments difficiles ou des fausses couches ou même des transferts d'embryons qui ne prennent pas, des choses comme ça, il faut vraiment aborder ces sujets-là de front.
Puis là, on passe vraiment dans le concret aussi. Il y a plein de questions où forcément on n'a pas pensé, on ne s'est pas parlé, mais où dans le processus, on est obligé d'y réfléchir et d'y répondre. Donc ça aussi, c'est tout un débat à avoir avec son partenaire, à discuter.
Ça a l'air d'être un processus qui est lourd au niveau de la bureaucratie.
Et en plus, qui est anglophone, principalement. Oui. Donc, si on n'est pas familier avec, bien familier avec l'anglais, ça rajoute un niveau de complexité.
Ouais. On se transforme, souvent avec Christophe, on rigole, on dit qu'au début de ce projet-là, on se transforme en chef de projet. Le projet étant, la finalisation du projet étant d'avoir un projet, mais il y a toute une gestion des échéanciers, des risques, et on peut le voir comme, si les gens sont familiers avec la gestion de projet, on peut véritablement le voir comme comme un projet avec, le budget, le timeline, les échéanciers, avec.
Ça paraît lourd comme ça, mais quand même.
Il y a du plaisir.
Il y a du plaisir quand même. C'est fun après de voyager et de te dire que tu vas voir l'échographie de ton enfant, tu le vois grandir aussi petit à petit. Ça, c'est quand même cool. Hein. Pour Sarah, on a assisté à toutes des échographies, puis c'était quand même. C'est chouette quand même de voir ton bébé évoluer petit à petit. Là.
Mais parlez-nous de comme ces moments comme super positifs, comme qu'est-ce que c'était, comme est-ce que c'était les échos et tout ça qui était, ou est-ce que c'était quand la gestatrice vous a choisi?
Ça, c'est un grand moment.
Oui.
Oh mon Dieu, le email, je me souviens du moment de. J'étais au travail, j'étais dans une. Je pense que j'étais dans une réunion, peut-être un peu ennuyante, puis je regardais mon téléphone, et là, soudainement, je vois un email rentré de Joanne, la propriétaire de l'agence, qui, en deux, trois lignes, qui nous annonce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait sélectionné notre profil. Et j'ai perdu tous mes moyens, je suis sorti de la réunion, j'ai appelé Christophe, j'ai sauté en l'air au travail.
Ouais, parce que c'est une longue attente, hein. Ça faisait un an qu'on attendait, qu'on n'avait pas vraiment de nouvelles. Mais là, c'est encore la période incertaine, parce que tu as un profil, mais tu te dis, est-ce que ça va être la bonne et tout ça. Puis après, la première rencontre est toujours un peu bizarre aussi, parce qu'on ne sait pas trop quoi se dire et tout ça.
Notre blind date, notre première rencontre, c'est vraiment, tu rigoles.
C'est comme ça que ça se sent.
Il faut se dire, c'est le stress, c'est ça pour elle aussi. Oui, pour les deux, chacun veut plaire à l'autre. Oui. C'est le but. Quand on parlait justement de plusieurs enfants, ça aussi c'était un beau moment quand on lui a demandé si elle accepterait de porter le frère ou la sœur de Sarah. Et qu'elle avait accepté, ça aussi, on avait été très émotifs.
Oh mon Dieu.
Quand elle nous avait dit oui.
On avait eu les larmes aux yeux parce que la réponse de sa part est venue très rapidement, très facilement. Elle a dit, of course, I was waiting for you guys to ask me. Et pour nous, c'était un tel stress de penser que ce serait de potentiellement avoir un non. Donc, on s'attendait pas nécessairement à un non, mais on s'était préparé aussi à ce que ce soit un non. C'était pas clair dans notre tête. Et quand elle a dit ça, tout de suite, les larmes.
Oui, parce que ça facilite quand même beaucoup la démarche de repasser par la même porteuse.
Ben oui, on avait déjà une relation établie, oui, on était déjà passé par plein de moments heureux, d'un peu plus difficiles. Donc, la base était construite. Mm-hmm. Reconstruire cette base-là avec une autre personne aurait été faisable, mais difficile.
Quand même, oui.
Donc, vos enfants la connaissaient aussi?
Connaissent, oui. Ils connaissent l'anciennement Cristaline, mais ils connaissent aussi ils connaissent son enfant. Donc, pour eux, c'est assez naturel. Ils connaissent leur histoire. Sarah non seulement connaît très bien l'histoire, que c'est elle qui l'a portée et tout ça, mais en plus, elle a vu sa petite sœur être portée par Cristaline. Donc, elle a vu le petit bedon grandir, la tante, l'enfant, on l'a nommé. Donc, pour elle, c'est assez clair. Le processus est vraiment assez clair.
Emma s'est réveillée de sa sieste, donc elle vient nous joindre. Vous allez peut-être entendre des petits sons de bébé par-ci, par-là. ma prochaine question, c'est comment vous souhaiteriez que le gouvernement supporte ceux et celles qui prennent le chemin de la GPA pour créer leur famille? C'est une grosse question.
C'est une grosse question à plusieurs volets. Moi, je te dirais, au niveau humain, la première chose qui me vient rapidement en tête, c'est cette espèce d'exil. Déjà, si on pouvait le faire dans notre langue, ce qui veut dire en français, chez nous, déjà rien que ça, si les gouvernements pouvaient faciliter cette partie-là, ce serait une grande aide. Et après, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses,
Christophe. C'est vrai, de pouvoir le faire au Québec, ça serait déjà un énorme plus. Là.
Oui. Puis tantôt, tu parlais du fait que la communication était super importante, mais qu'il a fallu qu'on le fasse en anglais. Peut-être que tu pourrais élaborer là-dessus.
Bah, c'est ça. Mais moi, j'ai plus de mal en anglais que ça. Puis je sais que, par exemple, pour des fois parler avec la mère porteuse, c'est moins évident. Mais aussi avec le personnel médical, là, quand ils expliquent toute la procédure et tout ça, moi, il fallait que je sois vraiment attentif pour arriver à comprendre et tout ça. Puis au moment de l'accouchement, par exemple, qui est un moment stressant ou quoi, puis on entendait le personnel qui parlait entre eux, mais ils parlaient en anglais, puis ça allait vite, tout allait vite. Puis là, on se faisait du souci, on se disait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il parle ?» Puis là, à un moment, on avait entendu césarienne dans la salle, on était là « Ah, ils vont lui faire une césarienne, ça y est !» Mais en fait, après, on a su qu'il parlait de la dame à côté et pas de là. Mais c'est ça, comme c'était en anglais, on ne comprenait pas tout. Donc, il y a plein de choses qu'ils font, mais...
Et au niveau symbolique, il y a quelque chose qui a rapport avec l'acceptation sociale, ou quand te disent que tu ne peux pas le faire chez toi, de t'exiler comme ça, puis d'aller loin, fait que tu te sens pas supporté. C'est comme si on allait à contre-courant, contre quelque chose. Donc, il y a quelque chose de l'ordre symbolique qui fait que si on peut le... C'est même pas si on peut le faire, si on a le droit de faire ça chez soi. Il y a quelque chose au niveau symbolique qui fait que ça aiderait aussi.
Ouais, c'est certain qu'est-ce que j'entends, c'est le fait que le Québec ne vous supporte pas, en fait, dans créer votre famille, donne un peu l'impression qu'ultimement, le Québec ne supporte pas votre famille.
Définitivement, c'est même clairement le cas, parce qu'au niveau de, au niveau de la loi, toutes les autres provinces canadiennes qui reconnaissent le contrat qui nous lie avec la femme porteuse, et le seul endroit au Canada où on peut... où ce n'est pas reconnu, ce contrat n'est pas reconnu, c'est chez nous. Et je trouve qu'on a la chance de vivre dans une société progressiste et où l'égalité est importante, où certaines valeurs sont très importantes, mais que là, quand il s'agit, là, on n'est plus dans le progrès, on est plus dans... On recule par rapport à d'autres... pas seulement à d'autres, à toutes les autres provinces canadiennes. Mm-hmm. Donc, c'est tout.
Mm-hmm. OK.
Hello.
Donc, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour les futures familles LGBT?
C'est vraiment juste sur deux grandes valeurs qui sont super importantes, la communication et la persévérance. Persévérance, résilience, appelle ça comme tu veux. Au tout début, puis plus tard dans le processus, le fait d'avoir un open communication, quelque chose qui est sans tabou, où on discute des moments difficiles et tout ça, c'est très important. Mm-hmm. Et quand les moments un peu plus difficiles arrivent, de savoir qu'on va finir par y arriver, est super important. Pour moi, c'est deux choses qui me viennent en tête.
C'est bien aussi d'être bien au courant de toutes les options qui sont offertes, d'avoir une bonne idée de par où on va passer. C'est déjà un stress en moins quand tu as une bonne idée des étapes qui vont se dérouler. Puis se dire que c'est quand même un projet magnifique. Là. Le résultat au bout est superbe une fois qu'on y est arrivé. Puis il faut prendre son courage à deux mains, là, je pense. Puis essayer. Là.
Je dirais que le plus beau moment que moi, et qui avoir su ça au début du processus, qui m'aurait peut-être beaucoup aimé aider, c'était quand la première fois où ma grande fille a commencé à parler, on est allé la chercher à la garderie, et qu'elle a couru vers moi et qu'elle a crié devant tout le monde, papa, comme tous les enfants le font quand tu vas aller les chercher à la garderie. C'était un choc, puis ça valait tous les moments un peu plus, difficile, je dirais, mais le bonheur de ces enfants-là, quand après tout ça, est tellement, tellement fort que c'est juste un bonheur d'assister, de les voir aller, parce que c'est incroyable.
Magabudi, tabudi, maïoli, bé, bé.
Sarah, pour toi, c'est quoi la famille? Quand tu penses à famille, tu penses à quoi?
Des flammes d'amour.
Quelle belle entrevue.
Oui, big time.
C'est fou, en fait, toute la bureaucratie que ça implique. Je ne savais pas, en fait, que la GPA, ça prenait autant de bureaucratie.
Oui, c'est énormément compliqué, c'est sûr. Et puis, de plus, il faut aller à l'extérieur du Québec pour le moment. Et puis, les autres provinces canadiennes, on parle anglais.
Anglais, oui.
Donc, Sam est assez bilingue, mais pour Chris, c'est difficile parce qu'il est français et il ne parle pas beaucoup anglais.
Mm-hmm. Un autre truc qu'on a appris, c'est pas mal que les petits bruits de bébé en interview, c'est cute.
Oui, oui, pas mal. Oui, c'est sûr. Et puis moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les enfants étaient toujours dans leurs bras. C'est une famille qui est vraiment chaleureuse. On voit comme le bien-être des enfants.
Mm-hmm. Donc, encore une fois, merci énormément à Samantha et à Christophe de nous avoir ouvert les portes de leur maison. Mm-hmm. Puis merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui.
Oui.
Déjà rendu dans notre deuxième famille. Notre deuxième famille, c'est Elisabeth et Ariane qui ont utilisé l'insémination maison pour créer leur famille. Donc, Elisabeth et Ariane, c'est deux femmes cisgenres lesbiennes qui sont les deux fières mamans d'Arnaud, qui a maintenant 2 ans. Elles ont pu accéder à la parentalité par l'intermédiaire de l'insémination maison. Cela a été possible grâce à un ami qui s'est proposé comme donneur. Ariane a porté Arnaud et le couple effectue maintenant des démarches pour agrandir leur famille. Cette fois, c'est Elisabeth qui portera le deuxième bébé, avec la même méthode et le même donneur. Mona, d'où est-ce que tu les connais exactement?
Je pense que la première fois que je les ai rencontrés était à notre journée intensive pour les futurs parents. Ensuite, Elisabeth est devenue secrétaire de notre conseil d'administration, et ça pendant 5 ans. Et actuellement, elle anime un groupe de discussion, un groupe de soutien pour les gens qui sont dans le processus de la procréation assistée. Donc, une personne, une couple, en fait, très impliquée à la coalition.
Mm-hmm. Puis, des pros pour nous parler de l'insémination maison.
Exact.
On les a rencontrés en octobre 2022. Ils habitent dans un bâtiment bigénérationnel avec la grand-mère. On a croisé la grand-mère en premier. On pensait enregistrer ça dans la ville pour avoir des petits bruits d'oiseaux. Mais je me suis vite rendu compte que à Montréal, les petits bruits d'oiseaux, c'est plus des bruits de gros camions. Alors, on a décidé de rentrer direct en dedans. Aussi, je vais vous le dire, j'avais un rhume à ce moment-là, donc je parle à travers un masque.
Oui, je me souviens.
Oui.
T'étais vraiment malade.
Très malade. Donc, on va laisser la parole à Elisabeth et Ariane à l'entrevue. On se retrouve juste après. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai un petit rhume, donc vous allez l'entendre dans ma voix, dans mon nez, dans ma voix nasillarde. Autour de la table, on a le bonheur d'avoir Elisabeth, Ariane et Mona.
Allô.
Allô.
Donc, ma première question pour nos deux invités, c'est quoi vos pronoms, et aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je m'appelle Elisabeth, pronom elle. Dans la vie, je suis maman d'un petit garçon de maintenant 20 mois. Et professionnellement, je suis aussi directrice générale d'une organisation qui travaille en transport, mobilité, en technologie.
Bonjour, je m'appelle Ariane, pronom elle aussi. Je suis aussi la maman du même petit bonhomme de 20 mois. Et professionnellement, je suis physiothérapeute dans le milieu de la santé publique et actuellement syndicaliste pour mon syndicat des professionnels de la santé.
Qui est-ce qui fait partie de votre famille?
Notre famille est composée actuellement d'Ariane, de moi, Elisabeth, et de Arnaud, qui est notre garçon de maintenant 20 mois. C'est important, le 20 mois, et non pas 18 mois. L'évolution à cet âge-là, ça se passe à chaque semaine. Puis dans notre grande bulle familiale, on habite aussi au-dessus de chez notre belle-mère. Puis pour nous, c'était important de le mentionner. Je dis notre belle-mère, ma belle-mère, donc la mère d'Ariane. donc elle fait partie de notre bulle très rapprochée de notre famille au quotidien. Donc voilà, ça c'est notre petite famille du quotidien. Mais sinon, il y avait un concept que je trouvais intéressant qui nous touche beaucoup, là, mais le concept de famille choisie. Donc, on a notre famille respective qui nous comble de bonheur, de relations et parfois de défis. Puis, On a aussi notre famille choisie. Par exemple, on a les marraines d'Arnaud qui habitent en diagonale dans la ruelle. Par hasard, ils ont acheté une maison en diagonale de chez nous. Donc, c'est un bonheur de les avoir tout près de nous aussi, d'avoir leurs parents qui sont au rez-de-chaussée, qui ont un peu comme une figure presque comme des grands-parents. Donc, pour nous, ça, c'est le concept de famille choisie est très important dans notre concept de constellation familiale.
La première question qui est toujours le fun, c'est est-ce que vous avez toujours voulu des enfants? Et ça, c'est autant individuellement qu'en relation. Donc, je vais commencer avec toi, Elisabeth. Est-ce que, en tant qu'humain, est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
On voit les grands sourires, là. Il y a quelque chose.
Oui, c'est pas une surprise. Les gens qui me connaissent savent que je veux, que je voulais avoir des bébés depuis toujours. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose que je voulais absolument vivre dans ma vie. Puis pour nous, c'était dès le début, quand on commençait à se fréquenter, c'était une question qui est venue assez rapidement. Est-ce que toi, tu veux des enfants? Oui, non. Puis pour nous, pour toutes les deux, c'était évident qu'on voulait passer par la famille. Donc, c'était une condition, je dirais, dans mon cas, pour vivre ma vie amoureuse avec Ariane.
Fait que j'entends que toi aussi, t'as toujours eu des enfants, Ariane.
Oui, je dirais que j'avais peut-être pas... Je dirais que j'avais pas le même tableau qu'Elisabeth, là, dans ma vie jeune. Ça a jamais été quelque chose de prioritaire. Je pense que fondamentalement, au fond de moi, oui, je le savais que je voulais des enfants, mais je dirais que ce qui m'habite, ce qui m'a le plus habité, c'est que j'étais dans des relations avec des hommes au début de ma vie adulte, je dirais, pendant 7-8 ans. Et je me sentais toujours limitée de me dire, si je me retrouve avec une femme, je pourrais pas avoir d'enfants. Puis on dirait que en rencontrant Elisabeth, là, je me posais plus la question et j'ai su que c'était possible. Puis là, pour moi, c'était comme le meilleur des mondes.
Est-ce que tu te souviens comment tu as compris que c'est quelque chose que tu pouvais faire?
C'est une bonne question. Après ma barre, on dirait que ça me revient pas le moment précis. En fait, je pense que, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit non, je vais être avec une femme, peu importe. Il y a eu cette étape-là en premier. Après ça, c'est venu plutôt naturellement. Mm-hmm. Mais peut-être aussi avec l'évolution, tu sais, les années passées, là, tu sais, je veux dire, ça fait quand même longtemps là, que j'avais 18 ans. Donc, à l'époque, c'était pas aussi ouvert puis aussi facile d'accès. Donc, avec Elisabeth, je savais que la possibilité était là. Mais après ça, rapidement, dans notre couple, là, c'est là qu'on a fait l'atelier des familles parce qu'on s'est rencontrés en 2014. Puis, en quelle année qu'on l'a fait, là, l'atelier?
En 2016.
2016, fait que c'est assez rapide. Là, on savait qu'on voulait pas d'enfants en 2016, mais on a rapidement été voir c'était quoi, finalement, avoir des enfants dans des familles différentes.
Vous avez commencé votre projet familial quand pour vous? Quand est-ce que vous avez débuté cette aventure-là?
Mais je dirais que assez rapidement, dans le sens que dès qu'Ariane et moi, on a officialisé notre union de couple, moi, je savais qu'elle serait probablement la mère de mes enfants. Donc, je pense que la notion de projet parental ou de projet familial est née à ce moment-là. Ceci dit, ça s'est vraiment concrétisé quand on a fait l'atelier pour les futurs parents.
Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous voulez me parler un peu de...
Oui, clairement. Là, clairement, tu sais, c'est comme Elisabeth disait à ce moment-là, je pense qu'Elisabeth était définitivement plus prête que moi à avoir des enfants, là. Sans équivoque. Mais en 2016, j'ai pas hésité à y aller avec elle, mais je savais que ça serait pas tout de suite. Donc, j'y allais vraiment juste avec la découverte, puis l'ouverture, puis de l'énorme curiosité. Puis c'est sûr, je m'en rappelle. Mm-hmm. Puis ça fait 6 ans, puis c'est comme si c'était hier. Là. Je me rappelle des gens, justement, qui étaient là comme nous pour apprendre, puis le cercle de discussion, puis tout ça, les questions qui se posaient. Et beaucoup aussi les témoignages là, des familles qui étaient en avant. Je me rappelle encore de leur visage. Puis des enfants qui étaient là, puis des nuances qu'il y avait dans ces familles-là, là, qu'il y avait, je pense qu'il y avait plusieurs cas de figure, comme on dit. Mm-hmm. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment mémorable. Puis en sortant de là, ben là, c'est que je sentais que je connaissais mes options. Mm-hmm. Puis ça, c'est hyper précieux. Puis après ça, il restait juste à se laisser habiter par le projet parce que je voulais vivre ma vie de couple avant de passer à une vie de famille. Heureusement qu'on l'a fait parce qu'il y a des défis d'avoir un enfant. Et donc, ça nous a habité pendant plusieurs années, puis ça nous a permis après ça, justement, de définir notre projet puis de le mettre en action. Donc, c'est ce que j'aurais à dire.
Mais en effet, moi, je m'en souviens aussi comme c'était ailleurs, puis je regardais les conférenciers et conférencières, puis on les idolâtrait quasiment parce qu'on était comme, ah, eux, ils ont réussi à faire leur famille, ça va être à notre tour bientôt. Puis ben là, maintenant, tu sais, je redonne aussi beaucoup à la coalition en m'impliquant, puis... Le fait de pouvoir redonner, repartager, tu sais, je l'ai vécu, moi, quand j'en avais besoin. Puis maintenant, ben, j'anime ça. Puis je trouve ça tellement enrichissant pour les futures familles d'avoir les possibilités d'en discuter, d'avoir...
accès à des modèles aussi.
De faire des modèles, faire des exemples, parce que, mon Dieu, qu'on n'en avait pas beaucoup de modèles.
vous avez participé à l'atelier, vous êtes revenu, vous avez continué à mijoter votre projet parental. C'était quoi les options que vous aviez devant vous?
Dans notre cas, les deux, on est capable de porter un enfant. Donc, on avait cette, en partant, on avait cette possibilité-là. On a étudié nos options, donc, qui étaient la clinique de fertilité. Puis, on a aussi la chance d'avoir un ami qui s'est offert pour être notre donneur assez tôt, avant même qu'on soit prête à avoir une famille. Puis, ben, à partir de là, on a évalué qu'est-ce qui nous convenait. On a lu beaucoup ce que la coalition fournit aussi comme ressources en termes de légalité. Là, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Ensuite, avec un donneur connu, donc, qu'est-ce qui est protégé par la loi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, nous, ça nous a vraiment rassurés. Puis là, bon, on a décidé finalement d'opter pour le parcours avec notre ami. Donc, ça a fonctionné très rapidement. Je le reconnais aussi, en fait, nous le reconnaissons, là, que c'est une chance inestimable là, d'avoir un ami qui s'offre à nous dans les conditions qui, pour notre famille, est parfaite. Donc, c'était, il répondait à tous les critères qu'on recherchait en termes de proximité, mais pas trop, en termes de... C'est vraiment un don de soi qu'il fait pour nous. Là, donc, ça, c'est quelque chose qui, à tous les jours, je pense qu'on pense à lui puis qu'on se dit que c'est incroyable qu'on ait eu cette chance-là.
Comme c'est un épisode sur la construction des familles, ça va sonner con, mais est-ce que vous voulez m'expliquer, en fait, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne...
Les inséminations?
Les inséminations, okay. parce que les gens qui vont venir écouter vont souvent être des couples ou des personnes seules qui veulent avoir un enfant puis qui n'ont aucune idée, par exemple, d'être allé chercher le sperme plus loin, de le rapporter, comment qu'on le rapporte, comment qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise. Comme tous ces petits moment-là, ça pourrait être pertinent pour les gens de les entendre, je pense.
Oui, une fois qu'on avait étudié la possibilité de la clinique de fertilité, bon, on n'était pas charmés par l'idée, puis eux, ils n'étaient pas très charmés par nous parce qu'on n'était pas des clientes très intéressantes. On avait un donneur, on essayait à la maison. Bon, donc on a finalement pas... On est très heureuse de ne pas avoir poursuivi en clinique. Ceci dit, on était évidemment rassurés de savoir que les deux, on n'avait aucun problème de fertilité, mais avec du recul, on comprend très bien que ce n'est pas nécessaire de faire ces étapes-là. Nous, on avait décidé que c'était Ariane la première parce que un petit peu plus âgée, professionnellement, ça tombait bien aussi.
Puis donc, pour la suite, dans notre processus, il y a aussi eu, à travers ça, il y avait justement les rencontres du groupe de...
Le groupe de discussion.
Ouais. Et on a commencé ces rencontres-là qui étaient en présence là, à l'époque. Et ça a vraiment été comme majeur aussi, je dirais, là, parce que ça nous a comme permis d'échanger, d'apporter nos inquiétudes, d'échanger avec d'autres qui vivaient ça. Fait que c'est comme tombé en plein dans quand on le faisait, là, fin 2019. Donc ça aussi, ça a été comme quand même majeur dans notre préparation. C'est ça, on a eu la clinique. Puis après ça, ben c'était justement, comme tu dis, là, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Tu sais, les gens te demandent si tu prends une poire à dinde. Là.
A turkey baster.
Il y a plein de légendes. Autant à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur de la communauté.
Exactement. Puis depuis ce temps-là, tu sais, combien de fois on l'explique puis on la raconte? Parce que sincèrement, les gens sont vraiment comme... ils comprennent pas là, comment on a fait notre affaire.
Mais en même temps, on s'est aussi senti très peu outillés sur comment on fait notre enfant à la maison. Est-ce qu'on prend juste une seringue de 10 millilitres qui se vend en pharmacie? En termes de matériel, on comprenait le processus. Ça allait. On avait aussi lu beaucoup de conseils dans le guide que la coalition a fait. Le guide orange, on l'avait lu de A à Z. Mais on savait vraiment pas quel matériel utiliser. Puis là, ben, on est vraiment laissé à nous-mêmes, finalement. Fait que heureusement qu'il y a une communauté, tu sais, qui est créée par la coalition, qui nous permet de discuter avec d'autres personnes, de nous mettre en relation avec d'autres personnes aussi. Ça nous a vraiment aidé à avoir des conseils, là, puis voir qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné.
Puis j'ajouterais, Élie, sur ce que tu dis, c'est que moi, avec mon petit côté médical, j'ai allé chercher des conseils dans le monde médical, ce qui n'est pas nécessairement l'affaire la plus recommandée. Là, je dirais que je n'avais plus à apprendre à mes gynécologues que l'inverse. Mais donc, j'avais fait ce cheminement-là aussi parce que je me sentais démunie. Là, j'étais comme toute seule chez nous, pas de matériel. Tu sais, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais. Fait que non, l'avenue médicale n'est pas développée. Fait qu'il y a un gros, gros, gros travail à faire là, de sensibilisation. Mais ma gynécologue était très heureuse. Elle trouvait ça merveilleux que je fasse ça à la maison. Puis elle disait, c'est donc bien merveilleux, mais elle n'avait absolument rien à dire pour m'aider.
Fait que c'est votre moment-là. Outiller les gens qui écoutent.
Un grand plaisir. Donc, du moment qu'on a commencé les essais, on trouvait le moment parfait là, dans le mois pour prendre... On prenait rendez-vous parce qu'il fallait qu'on se déplace quand même. Là, donc, pour faire... on voulait faire deux essais par mois. Là, c'était ça notre objectif. Là, donc, objectif, en tout cas. C'est ce qu'on souhaitait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on se déplaçait. On essayait de rendre ce moment-là un moment le fun et mémorable, qui n'était pas juste axé sur l'essai comme tel, mais aussi d'avoir un souper, un échange. Mais tu sais, je sais que c'est pas toujours possible, là, on s'entend, là, puis ça n'a pas toujours été le cas, mais on a gardé des beaux souvenirs, c'est ça, d'essayer de souper, passer un petit moment ensemble, faire l'essai. Donc,
on se rappelle qu'Ariane a toujours ovulé la fin de semaine. Hein. Donc, ça l'a vraiment
facilité. Le timing était bon. Tout à fait. Donc, ça a été ça, tout simplement, là, deux essais par mois.
OK, jusqu'à temps que ça fonctionne.
Jusqu'à temps que ça fonctionne. Puis quand ça a fonctionné, ben on y a écrit.
Donc, le donneur est venu ici?
Non, on allait chez lui.
OK, mais vous avez fait les inséminations là ou vous retournez rapidement?
C'est une bonne question. Ça allait de soi pour moi, là, mais non, nous, ça, c'était vraiment, on s'était dit... On avait lu aussi là, sur le temps, le délai, puis ça, je ne suis
pas
familière.
Pas long, oui.
Peut-être que tu pourras en rajouter, Mona, parce que nous, en fait, c'est ça, il faisait, il mettait ça en dessous de l'oreiller là, pour garder ça dans le noir.
Oui,
puis,
au chaud.
Puis après ça, on allait dans sa chambre, ça fait que c'était comme...
Direct.
Chez lui, oui, ça, c'est la meilleure chose à faire.
C'est ça.
Après, il y avait un délai de 30 secondes entre...
qui mettait ses pantalons.
Là, c'est ça.
Oui, exactement. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais en effet, je sais que des fois, c'est possible là, d'avoir un certain déplacement selon...
Mais ce n'est vraiment pas suggéré. C'est mieux de le faire comme tout de suite, si possible. Est-ce que je peux te poser une question, Ellie, sur comme le fait d'être le parent non biologique de Arnaud? Est-ce que ça t'a touché? Comme est-ce que ça te fait questionner? Ou est-ce que ça t'a chalé? Ou c'est comme c'était complètement naturel?
Non, c'est vraiment complètement naturel. Je dis toujours que Arnaud, c'est comme si je l'avais accouché, cet enfant. Mm-hmm. On a une complicité qui était, je dirais, exceptionnelle depuis toujours. J'ai aussi fait énormément de portage avec lui. Donc, j'ai beaucoup porté en porte-bébé. Mais moi, je fais beaucoup d'écharpes. Puis je dis que pour moi, ça a été ma manière de le porter. Je ne l'ai pas porté physiquement, mais je l'ai porté sur mon corps, sur mon dos, devant moi. Donc, j'ai vraiment... une super belle relation avec lui, puis je me suis jamais posé de questions. Je me suis toujours sentie autant mère que lui. C'est sûr que la nuit, quand il se réveille puis qu'il demande le sein, je me dis, bon, ben, c'est pas moi qui peux t'aider. Fait que, va voir ton autre mère. Mais outre ça, vraiment, je me suis jamais posé de questions. Puis je savais que si mon corps le voulait bien, j'allais porter le deuxième enfant. Donc, je savais que j'allais le vivre, puis je voulais absolument vivre aussi l'autre côté de la médaille d'être la deuxième mère. Là. Donc... Je le vis avec vraiment beaucoup de bonheur.
Nice.
Qu'est-ce que j'entends, c'est que vous essayez d'en avoir un deuxième en ce moment?
Oui.
On n'a pas encore pété le punch, là.
Non, c'est ça. Mais là, quand le podcast va être en diffusion, on devrait avoir, j'imagine, d'autres nouvelles.
Déjà
mais...
3-4 enfants.
Oui, c'est ça. Alors, en ce moment, en octobre, on attend les résultats. Fait qu'en fin de semaine, on devrait le savoir si je suis enceinte ou pas, mais on prend ça vraiment plus relax. Je dirais que le premier bébé, tu essaies de faire ça un peu romantique. Puis là, le deuxième bébé, c'était vraiment plus relax. Là. Ariane n'était même pas là. T'es partie prendre un verre avec une amie.
Mais ça, c'est ce que j'entends assez fréquemment avec les membres de la coalition. C'est comme les premiers quelques fois, c'est tout romantique. Et puis le vin, et puis on essaie de faire quelque chose de spécial, les chandelles. Mais après, le 8e, 9e fois, si ça marche pas avec vous autres, ça marchait assez rapidement. Mais ça devient comme un peu plus banal. Mais peut-être c'est parce que vous comprenez un peu plus qu'est-ce que c'est la parentalité maintenant. Aussi. Et que c'est beaucoup plus que la conception.
Mon Dieu, oui. Oui, de sages paroles.
Pour vous, c'était quoi les moments les plus gratifiants de votre projet parental?
L'ensemble de l'œuvre, là, clairement, mais les moments les plus gratifiants.
Ouais.
Ben clairement, pour moi, l'idée d'avoir la possibilité d'avoir ce projet-là, tu sais, c'est comme inestimable. Là, fait que c'est la première chose qui me vient.
Les moments de conception pour le premier bébé, pour Arnaud, pour moi, c'est vraiment un moment fort dans notre projet familial parce que c'était vraiment des beaux moments qui étaient simples, qui étaient honnêtes, qui étaient... C'est exactement dans l'esprit dans lequel on voulait que ça soit fait. Donc, je reviens à ces moments-là parce que ça me touche encore beaucoup. Puis, après ça, l'accouchement, c'est sûr, c'est un moment très fort. Puis, je pense que personnellement, je l'ai vécu en me disant, je vais peut-être le vivre moi aussi après. J'étais comme, oh mon Dieu, je veux-tu vraiment vivre ça? Mais bon, finalement, j'ai un brin de folie, puis je veux aussi vivre un accouchement.
Ouais, donc en effet, moi, c'est vraiment ça. C'est le projet tel qu'il est, pour moi, c'est mon idéal. Puis c'est ça qui est le plus gratifiant. Puis de le porter, tu sais, je suis vraiment fière de le porter, tu sais, autant à l'hôpital, avec ma médecin, dans les suivis, auprès des professionnels de la santé. Tu sais, c'est quand même tout le temps, t'es tout le temps en train, finalement, de présenter un modèle différent, là. Puis moi, je trouve ça super gratifiant de le faire. Je suis comme vraiment fière de faire ça. Fait que.
On avait un rendez-vous chez l'allergologue l'autre jour, puis il me regarde, puis il dit « Ah, l'autre fois, c'était ta conjointe qui était là, puis t'as comment enchanté. » C'est super naturel, puis il se souvenait d'Ariane, puis on dirait que le fait encore aujourd'hui de voir à quel point nos familles sont parfois très bien accueillies, comme si de rien n'était, j'aimerais que ça soit la norme partout, mais quand on le vit, j'en suis vraiment reconnaissante.
Mmh. Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre famille?
Ben, notre famille.
Ouais, qui on est, qui on est devenu aussi comme famille, de voir notre enfant s'épanouir, grandir. Je pense que comme n'importe quelle famille, là, on est vraiment émerveillé par nos enfants. Mais je pense qu'on est fier aussi de notre identité. On est fier d'être deux mamans. On est fier qu'Arnaud va grandir dans une famille qui est différente de la norme au Québec. Mmh. Arnaud qui va être un enfant, tu sais, aussi très ouvert d'esprit, qui va lui-même aussi à sa façon devenir un porte-parole de nos familles. Puis Arnaud, tu sais, déjà, évidemment, on a plein de livres là, pour lui à la maison, là, pour lui montrer les différentes sortes de familles. Puis j'ai espoir que cette génération-là soit vraiment plus ouverte que les précédentes, puis que pour eux, ça soit juste normal d'avoir un, deux, trois parents, peu importe leur genre, leur identité de genre. Donc, je pense que pour nous, c'est ça qui est une grande fierté aussi.
Je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, la famille, c'est un réseau d'entraide. C'est toutes les personnes autour de nous qui aiment Arnaud autant que nous.
Wow, c'était vraiment une entrevue très intéressante. Très touchante. Très riche. Oui. Donc, mais qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, June?
Ben moi, j'ai appris en premier que la famille, c'est vraiment plus que la procréation.
Oui.
Donc, c'est plus que faire l'enfant, c'est l'élever. Oui. Après, on en a parlé un peu pendant l'entrevue.
Oui, c'est sûr que quand on est dans la période, ça a l'air d'être énorme, mais c'est juste une mini partie de la vie d'être une parent.
C'est vrai. On a l'impression que c'est tout, mais c'est une minuscule partie.
Oui.
J'ai aussi appris que les spermatozoïdes ont une très courte durée de vie à l'air libre.
Très important de savoir ça.
Très important.
Oui. Et aussi, peut-être que les inséminations maison sont différentes pour chaque famille. Mmh. Et c'est comme, c'est plus une art qu'une science, je pense. Et c'est comme, il n'y a pas une recette précise.
Mmh. Donc, merci beaucoup à Ariane et Elisabeth de nous avoir invités chez vous.
Oui, merci tellement. Et puis, c'est tellement le fun de voir leur famille grandir à travers les années.
OK. Ouf! On en a appris beaucoup aujourd'hui.
Oui, big time, oui.
Mais on a surtout eu la chance de rencontrer deux familles pas mal incroyables. Mm-hmm. On ne dira jamais assez. Merci, merci, merci à Samator et à Christophe.
Ouais.
Et à Elisabeth et à Ariane.
Mm-hmm.
Mona, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites pour les 25 prochaines années en lien avec la GPA ou l'insémination maison?
Mais en fait, je le souhaite pour les prochains mois.
Oh.
Oui, c'est ça. Nous sommes présentement dans une conjoncture très importante pour la GPA. C'est qu'on va avoir peut-être très bientôt un encadrement légal pour la GPA au Québec. Donc, j'étais même récemment à l'Assemblée nationale pour parler du projet de loi 12 qui a l'intention d'encadrer la grossesse pour autrui. Donc, si c'est adopté, on espère bien, ça va être vraiment un game changer pour les gens qui veulent fonder leur famille comme ça. Donc, ils ne vont pas avoir la nécessité d'aller dans d'autres provinces canadiennes. Donc, déjà quelque chose de bien. Et on espère que ça va être adopté avant la fin de la session cette année-là.
Oh, wow! Fait que
J'espère vraiment que ça se déroule bien,
oui,
rapidement, puis aussi que si vous nous écoutez dans le futur, ben que ces droits-là sont déjà bien acquis.
On espère.
Dans le prochain épisode, vous aurez la chance de rencontrer Pierre et Mathieu, qui parleront d'adoption en banque mixte, et Mickey et Marie-Josée pour la procréation médicalement assistée. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT. Animation, réalisation et montage par Henri-June Pilote. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Encore une fois, merci énormément.